20 часов в Париже.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde avec le regard des rédactions du Monde de RFI. Revenons sur l'actualité de la semaine ce soir pour la rédaction en espagnol Raphaël Moran.
Buenas noches.
Elcio Ramalho de la rédaction brésilienne. Et Matei Vieschnik de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Et bonsoir à vous tous. Cette semaine a été marquée par la cyberattaque massive qui a frappé des entreprises du monde entier. Parmi les dernières réactions, celle du commissaire européen chargé des questions de sécurité. Julian King rappelle que l'exécutif européen va réviser en septembre sa stratégie de cybersécurité et qu'il annonce déjà un nouveau train de mesures financé par 11 millions d'euros. Le rançongiciel, comme on dit, Petya sévit quelques semaines après WannaCry. Il est même plus sophistiqué si l'on en croit les experts d'Europol, qui est la police européenne. Alors, Matei Vieschnik, encore une fois, cette cyberattaque est venue de l'Europe de l'Est, de Russie. Il y a des experts qui affirment même que la Russie est la mère patrie des cyberattaques. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'Ukraine a été la première victime.
Non, ce n'est pas par hasard. Depuis que l'Ukraine a rompu avec Moscou pour essayer de s'approcher de l'Union européenne, les cyberattaques contre ses banques, infrastructures et diverses institutions se sont multipliées. La police de Kiev dit que l'objectif des pirates, cyberpirates à l'origine du virus, a été d'inoculer un autre plus dévastateur encore dans le réseau informatique ukrainien qui est pendu la Russie du doigt. Bon, le Kremlin parle d'allégations sans fondement parce que plusieurs entreprises russes ont été aussi victimes, mais les autorités ukrainiennes disent que depuis l'annexion de la Crimée en 2014, il y a eu pas mal de piratages. Il faut dire que le rançongiciel a touché 60 pays, de la France, l'Australie, sur plusieurs continents, des dizaines de milliers d'ordinateurs. Et on dit que demander 300 dollars comme rançon, c'est pas sérieux, donc ça cachait autre chose. On verra.
Vous l'avez dit, tous les continents sont touchés. L'Amérique latine est géographiquement éloignée de la Russie et de l'Ukraine, Raphaël Moran. Et pourtant, on a recensé des cas d'infection informatique au virus un peu partout.
Oui. En Amérique latine, l'attaque n'a pas atteint l'ampleur ni même la gravité que ce que nous décrit Matei donc en Ukraine ou en Russie. Mais en fait, ça montre que un mois et demi après la cyberattaque géante via le logiciel de rançonnage WannaCry, que les ordinateurs du monde entier sont encore vulnérables. Et donc le sujet inquiète, il a été amplement commenté dans la presse économique en Argentine, au Mexique, au Pérou aussi. Eh bien, tout simplement parce qu'un ordinateur qui est paralysé, eh bien, ça paralyse les activités et la production de l'entreprise, donc son fonctionnement.
Pour ce qui est du Brésil, Elcio, est-ce que le pays a été épargné?
Oui, non. Plusieurs hôpitaux dans les villes à l'intérieur de São Paulo, dans le sud-est, et un hôpital dans le nord du pays ont eu leur système piraté par cette nouvelle attaque. Plusieurs consultations ont dû être annulées. L'impact a été beaucoup moins important qu'au mois de mai avec WannaCry, lorsque les grandes entreprises, les systèmes publics, les retraites et les tribunaux ont été frappés.
Raphaël Moran, il est important d'expliquer de quelle manière le virus a traversé les océans.
Oui, un responsable de l'entreprise de cybersécurité ESET en Amérique latine nous explique que l'une des caractéristiques de ce virus, c'est de rechercher automatiquement les dossiers partagés une fois qu'il a pénétré un ordinateur. Et donc, via ces dossiers partagés, le virus infecte des postes, des ordinateurs situés dans d'autres régions ou pays, dans les entreprises qui sont connectées en réseau, dans ces multinationales qui peuvent être situées à la fois en Asie, en Europe, en Amérique latine, et c'est ainsi que le virus peut sauter d'un continent à l'autre.
Alors, Elso, plusieurs sites spécialisés sur la sécurité informatique ont analysé ce nouveau virus. Qu'est-ce qui ressort de leur enquête?
Ils ont pris le soin d'expliquer aux utilisateurs la nouvelle version sophistiquée de ces virus dont les experts disent du type Whipper, à savoir un virus destructeur dont le but est plutôt d'attaquer les systèmes d'exploitation et non simplement pour obtenir une rançon. Donc, ce nouveau virus semble copier des données informatiques vers un autre emplacement pour les récupérer, mais non, les données sont mélangées, rendant les systèmes d'exploitation irrécupérables.
Alors, pour l'instant, les dégâts sont relativement limités sur le continent latino-américain, mais la région est particulièrement vulnérable. Pourquoi, Raphaël? semaine.
Alors, selon des experts informatiques, entre 15 et 20% des ordinateurs au Mexique, au Brésil et en Argentine n'ont pas actualisé leur système de défense antivirus. Et donc, c'est ce qui a permis au précédent virus WannaCry, qui s'est propagé au mois de mai, de se propager à une allure galopante. Le Mexique a été d'ailleurs l'un des pays les plus touchés au monde par ce rançongiciel WannaCry. Plus grave encore, dans certains pays, les appels d'offres pour des logiciels qui ont trait aux grandes entreprises nationales, finalement, ne prennent pas en compte la cybersécurité. C'est ce que nous disait Rodrigo Samano, un expert mexicain en cybersécurité. On l'écoute.
Nos ha tocado casos donde tenemos que hacer una auditoría en sistemas.
Que dit cet expert?
Alors, il nous explique que lui a fait des évaluations dans des systèmes informatiques dans des grandes entreprises importantes, des entreprises qui ont trait à la sécurité nationale, comme celles qui gèrent le contrôle du trafic aérien, par exemple. Donc, on imagine les conséquences en termes de sécurité d'un dysfonctionnement informatique. Et il nous explique qu'au Mexique, en fait, ce qui prime, c'est la corruption, le trafic d'influence, plutôt que les impératifs de sécurité. Le résultat, c'est une grande vulnérabilité du secteur informatique. Il dit que pour l'instant, heureusement, il n'y a pas eu d'attaque de grande ampleur, mais il observe que depuis 2 ans, les attaques informatiques ont commencé et elles ont touché, par exemple, l'entreprise fédérale d'électricité. Et il explique qu'aujourd'hui, cette entreprise, qui est une entreprise énorme, n'est pas préparée à répondre à une attaque de grande ampleur. Autre exemple, au Pérou, selon un autre expert informatique, en cas d'attaque dans ce pays, 40% des entreprises pourraient perdre des données, avec évidemment un coût colossal.
Elcio, récemment, vous avez interviewé un spécialiste qui estime qu'il faut rester vigilant parce que ces attaques sont de plus en plus récurrentes. Il y en aura de nouvelles.
Il s'appelle Fabio Assolini, il est analyste senior au Brésil pour la société de sécurité informatique russe Kaspersky. Il nous a expliqué que les attaques vont continuer.
Infelizmente, esses ataques irão continuar. E aí eu gostaria de fazer uma comparação. O último grande worm que nós tivemos.
Donc, il nous dit que les attaques vont continuer. Il nous rappelle un virus, Conficker, dont l'impact a été mondial en 2009. Aujourd'hui, les Conficker circulent encore. Il explique, au début, ces attaques infectent un grand nombre d'ordinateurs, puis diminuent avec le temps. Selon cet expert, des nouveaux parasites numériques vont apparaître pour exploiter la même vulnérabilité du système Windows. Dose pour lui, donc pas la fin des attaques.
Matej Wiśniak, revenant à l'Europe, entre autres cibles, l'Alliance Atlantique fait souvent l'objet de cyberattaques, mais depuis quelques années, elle s'est dotée d'une cyberforce de réaction rapide.
Oui, ça s'organise encore. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré il y a 2 jours vouloir renforcer les cyberdéfenses de l'Alliance. Il rappelle aussi que depuis un an, l'OTAN a décidé de faire du cyberespace un domaine opérationnel, c'est-à-dire que l'OTAN a comme domaine d'action militaire la terre, l'air, la mer et le cyberespace. Par conséquent, une cyberattaque peut désormais déclencher l'article 5, très important, du traité fondateur de l'Alliance qui prévoit que les pays de l'OTAN se doivent de porter secours à un allié attaqué. Mais il y a aussi des divergences parce que il y a certains qui disent que le problème de la cyberdéfense, c'est de compétence nationale. Encore un détail, en 2008, l'OTAN crée un centre de recherche et de formation à la cyberdéfense à Tallinn, en Estonie. Peut-être pas par hasard là-bas, et la France y participe.
Cyberdéfense, en attendant donc peut-être bien un jour une cyberguerre. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI, $30.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Le Brésil n'en finit pas d'être empêtré dans la crise politique. Une fois de plus dans Accent du Monde, revenons-y parce que cette semaine, le procureur général de la République a demandé à la Cour suprême la mise en accusation pour corruption passive du président Michel Temer. Elcio Ramalho, c'est du jamais vu.
Historique. Michel Temer est devenu le premier président en exercice à être accusé de corruption par les procureurs de la République, Rodrigo Janot, suite à une investigation menée par la police fédérale.
Alors, quels sont les arguments du magistrat pour inculper le chef de l'État?
Une rencontre entre le président Temer et l'homme d'affaires Joesley Batista, un des propriétaire des géants de l'agroalimentaire JF, une société visée par une grande enquête de corruption. Ce monsieur, Batista, a passé un accord avec la justice brésilienne. Il a enregistré la conversation avec le président Temer, selon l'acte d'accusation. Au cours de cette conversation, Temer donne son accord pour verser des pots de vin pour acheter le silence de l'ancien président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha, actuellement en prison. Autre accusation des procureurs, Temer s'est prévalu de sa condition de chef d'État pour recevoir environ 150 000 dollars de pots de vin par l'intermédiaire d'un député qui a été filmé par la police en train de recevoir
l'argent. Et le président brésilien, lui, nie toutes ces accusations.
Sa première réaction, rien ne nous détruira, ni moi, ni mes ministres. Ensuite, il a passé à l'attaque. Il y a critiqué ouvertement les procureurs généraux. Nous l'écoutons.
Somos vítima, né? Dessa infâmia. De natureza politique.
Quelle est sa ligne de défense?
Donc, il se dit victime d'une infamie de caractère politique. Je suis accusé de corruption passive, mais où sont les preuves? Demandait-il. Temer parle d'une fiction et d'un enregistrement illicite.
Alors, la Cour suprême a été saisie, mais pour ouvrir un procès contre un chef de l'État au Brésil, il faut que le Parlement donne son accord. Hein.
Donc, la Cour suprême a envoyé hier aux députés une demande d'autorisation pour enquêter et juger le président Temer. Donc, une commission va se réunir, écouter la défense du président et, après, le vote du rapport final sera en séance plénière. Il faut l'approbation des deux tiers des députés. Le président Temer a besoin d'au moins 172 votes pour stopper cette procédure de la justice. Son parti et ses alliés comptent environ 250 députés. Donc, les analystes estiment qu'il est fort probable que Temer peut échapper à l'ouverture du procès.
Ça, c'est l'aspect judiciaire. Maintenant, d'un point de vue politique, il y a un vrai problème de légitimité qui se pose pour le chef de l'État.
Exactement. C'est la question qu'on a posée au politologue Vinicius de Carvalho de l'Institut Brésil de King's College de Londres. Il mène cette réflexion.
O que me parece é que há um desgosto generalizado com o que diz respeito à classe política brasileira.
Il parle de dégoût général vis-à-vis de la classe politique.
Exactement. Dégoût général avec cette classe politique brésilienne, cela affecte la capacité de mobilisation populaire. Les Brésiliens se demandent, nous allons nous mobiliser en faveur de quoi? Pour que Temer s'en aille, mais qu'est-ce qu'il vient ensuite? C'est un moment très sensible pour le Brésil. On assiste à une remise à plat d'une classe politique corrompue qui a perdu toute sa crédibilité auprès de la population, mais il n'a pas d'alternative constructive, ce qui explique pour ces politologues une certaine apathie de la part de la plupart des Brésiliens.
Elcio Ramalho de la rédaction brésilienne de RFI qui suit bien évidemment les soubresauts de la vie politique au Brésil. Puisqu'on parle de corruption, elle sévit aussi en Roumanie, Matej Vichniec. Le procureur national financier français, Eliane Houlette, signe avec son homologue roumaine, Laura Kövesi, un protocole afin de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte commune contre ce fléau. Alors, est-ce que la France est un modèle en la matière pour la Roumanie?
Oui, sûrement. D'ailleurs, concernant l'objectif de ce protocole, c'est que les deux parties veulent accélérer l'exécution des demandes d'entraide, encourager le dialogue personnel et organiser des échanges de pratiques et d'expériences. Madame Laura Kövesi a déclaré pour RFI...
Ceci, on l'écoute.
Da, poate fi un model, chiar a fost un model pentru noi, mai ales din perspectiva...
Que dit-elle?
Voilà, elle dit que la coopération concerne d'abord la traque du blanchiment en France du produit de la corruption en Roumanie. Et elle se félicite de la saisie en France de deux immeubles d'une valeur de 3,5 millions d'euros acquis par un homme inculpé en Roumanie pour corruption. Il faut dire aussi que la Roumanie a une structure, ça s'appelle Direction Nationale Anticorruption, qui est aussi modèle pour d'autres pays, pour des pays des Balkans et de l'Europe du Sud.
Alors la lutte contre la corruption est une bataille de tous les jours qui a ses justiciers, voire ses justicières. C'est le cas de Laura Kövesi, dont le journal français Libération vient de dresser le portrait.
Oui, disons, en février, le pouvoir social-démocrate à Bucarest a essayé d'imposer une loi pour limiter en effet l'indépendance de la justice et de gracier un certain nombre de responsables politiques corrompus. Depuis, ce n'est pas peut-être par hasard, la procureure en chef du parquet anticorruption multiplie les rencontres européennes. et dans ce contexte qu'elle est venue en France. Laura Kövesi écrit « Libération incarne la figure de la justicière en Roumanie. Elle a bousculé le monde politique de son pays en envoyant derrière les barreaux un ancien premier ministre parmi d'autres et d'autres politiques et d'hommes d'affaires. »
Pendant qu'à Paris était signé donc cet accord de coopération judiciaire, et bien à Bucarest, il y avait, il y a toujours, une nouvelle crise du parti majoritaire au Parlement qui a décidé de changer de gouvernement. Crise, c'est un vaudeville politique.
Oui, sûrement, parce que bon, la Roumanie s'est dotée de nouveau exécutif, mais il n'en avait pas besoin. C'est un chef du parti, en effet, qui n'était pas content de son premier ministre, du premier ministre qu'il essaye de piloter dans de l'ombre, parce que ce chef du parti ne peut pas assumer le rôle, parce qu'il est justement inculpé pour la corruption. Donc, du coup, il a choisi quelqu'un d'autre, beaucoup plus fidèle. C'est pas sérieux, parce que justement, l'ancien premier ministre était venu en France il y a 2 semaines pour signer des accords et parler de futur partenariat France-Roumanie.
Matei Vichniec de la rédaction roumaine de Radio France Internationale. Et l'on reparle maintenant dans Action du Monde de sécurité informatique. Avec vous, Raphaël Moran de la rédaction en espagnol. Le journal New York Times révèle que le gouvernement mexicain a acquis un puissant logiciel israélien pour espionner les téléphones portables, achetés donc en 2014. Et bien depuis, les services de renseignement l'ont utilisé contre des journalistes et des ONG et non contre des criminels.
C'est ce qu'on suspecte, effectivement. Le gouvernement mexicain a acquis un logiciel qui s'appelle NSO Pegasus en 2014 pour la somme de 32 millions de dollars tout de même, selon un contrat qui a filtré dans la presse cette semaine. Ce contrat était assorti de 500 objectifs, c'est-à-dire 500 cibles à espionner. Ce logiciel était normalement réservé aux criminels et aux terroristes, c'est ce qu'explique l'entreprise qui vend, qui a fabriqué ce logiciel. Sauf que le gouvernement mexicain, vous l'avez dit, aurait apparemment utilisé ce logiciel contre des journalistes d'investigation, très connus pour leur esprit critique, et contre leur famille aussi, contre des avocats d'organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme et qui enquêtaient notamment sur la disparition des 43 étudiants, et contre des hommes politiques d'opposition, c'est ce qu'on a appris cette semaine, notamment certains qui préparaient une loi anticorruption ou qui luttaient contre les lobbies du sucre, par exemple.
Alors expliquez-nous comment fonctionne ce logiciel, ce programme pour espionner tous ces gens.
Alors ce programme fonctionne à partir d'un lien. La personne visée reçoit un message, souvent inquiétant, pour l'inciter à cliquer sur un lien. Je donne un exemple, une journaliste mexicaine a reçu un message un jour qui l'informait qu'elle avait un problème avec son visa d'entrée aux États-Unis. C'est un pays où elle se rend souvent, donc le message l'invitait à cliquer sur ce lien, qui était évidemment faux et qui permettait au programme de s'introduire dans son téléphone portable. Selon l'enquête du New York Times, qui a travaillé avec des professionnels de l'université de Toronto, ce programme permet ensuite de récupérer tout le contenu du téléphone, les SMS, les courriels, le calendrier, les contacts, la géolocalisation aussi, et pire, d'activer le micro et la caméra du téléphone.
Bon, du reste, Raphaël, l'espionnage n'est pas vraiment nouveau au Mexique, comme ailleurs d'ailleurs. Oui. Alors pourquoi ces révélations ont suscité une telle indignation ?
Eh bien pour deux raisons. D'abord parce qu'elles ont touché, on l'a dit, des voix critiques du gouvernement, et parce que l'entreprise israélienne qui a fabriqué ce programme, et qui est réputée être extrêmement perfectionnée, assure qu'elle réserve son usage aux personnes suspectées de criminalité et de terrorisme, et qu'elle ne vend ce programme qu'à des gouvernements. Or au Mexique où la criminalité atteint des niveaux énormes à cause de l'impunité, imaginez-vous, on est dans un pays où l'impunité est presque totale, et on s'aperçoit qu'un programme de gouvernemental d'espionnage n'est pas utilisé contre la mafia, mais contre les victimes de cette mafia, qui sont le journaliste, par exemple. D'autant que le gouvernement mexicain a dépensé des dizaines de millions de dollars pour l'achat de ce logiciel. Alors, pour l'instant, rien ne prouve que ces journalistes, ces activistes ont été espionnés par le gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que leurs téléphones ont été infectés par un programme malveillant Pegasus. Or, comme je le disais, c'est un programme qui n'est vendu qu'à des gouvernements.
Alors justement, quelle est la réaction du gouvernement mexicain ?
Le président lui-même, Peña Nieto, a nié ces accusations en affirmant qu'il n'y avait pas de preuves, mais la justice mexicaine a quand même ouvert une enquête.
Vous ne faites pas partie de ces journalistes, vous êtes d'origine mexicaine, espionnés par le gouvernement mexicain.
Non, Dieu merci.
C'est très compliqué de travailler au Mexique quand on est journaliste aujourd'hui. Très dangereux et très compliqué.
Il y a encore des journalistes qui se sont fait assassiner très récemment, et comme je le disais, le taux d'impunité est quasiment de 100%. Ce sont des journalistes indépendants, journalistes locaux, ou des journalistes qui enquêtent sur les liens entre la mafia et le pouvoir, et qui sont menacés puis tués.
Merci Raphaël Moran de la rédaction hispanophone de Radio France Internationale. Merci à vous tous donc pour cet éclairage sur ce qu'il y a à écouter sur les différentes antennes de RFI. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité.